Alors, la dernière chanson, je la garde pour demain. Il faut pas jouer parce que là, je crois qu'on est rincé. Juste une chose. Quoi?
Ça va, oui.
Vous voulez la faire quand même? Ouais, mais du coup, comme on ne l'a pas travaillé, c'est pas grave, on balance avec l'instru. Ça vous dit? On en fait une dernière. Pour la route. Ok. Ah là 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 là, je vous jure. One, two, three. La 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 ya. Vous avez vos voix?
Ouais.
Allez, go, c'est parti. One, two, three, go.
Bonsoir, c'est la dernière de la saison de Supersonic sur France Culture. Par ici la sortie, on va prendre l'air. Par ici. Par ici la sortie, mais on revient la saison prochaine. Par ici la sortie, on va prendre l'air de Nantes, pour la DER. On inspire, on respire. Certes, oui, la culture a ses machines, les machines ont leur culture. Hors de question de le nier, mais il y a de l'air qui passe par ici, regardez, et par là, dans l'autre sens. Souffle, chant, cœur, tambour aussi pour d'autres vibrations discrètes. Ce soir, nous allons à la rencontre de Karim Amour et de la chorale Urban Voices qui existe depuis 2011 et qui rassemble des centaines de choristes. La chorale géante, le grand collectif vocal urbain nantais rassemble des chanteurs et chanteuses de toute une série de quartiers de Nantes et vient de terminer ses répétitions publiques. 200, 300, 400 chanteurs à chaque fois pour annoncer une série de représentations à la Cité des Congrès de Nantes avec 1000 choristes les 9 et 10 juillet, donc le week-end prochain. Or, il se trouve qu'on a pu assister à la première répétition, mais on commence par un petit cours de respiration et de chant par Karim Amour lui-même auprès d'une de ses chefs de pupitre du chœur, Larissa alias Laris Smith.
Tu vas prendre juste de l'air, t'inspirer avec le nez. Puis les genoux. Allez, tu serres un peu tout ça. Inspire. Voilà. Alors là, dans l'écoute déjà, dans l'écoute, juste avec de l'air, on se rend compte si la fluidité est là. Alors, on inspire bien. Chose, mais il y a ça. Ok, tu vas faire la même chose. Inspire. A. Alors là, je sollicite un petit peu ses bras pour que ça lâche et j'essaie de faire descendre un petit peu plus en bas. La même. Lâche le menton. Ok. Tu vas reculer d'un pas. Un pas. Et tu vas inspirer. Et tu pousses la note avec les bras. D'accord? La même chose que tout à l'heure. Yes.
Il faut pas jouer, non pas jouer, pas ton, c'est pas ton jouet. Joue oui, joue l'amour, joue le vélin, pas le jour enfumé. Il faut pas jouer, non pas jouer, pas ton, c'est pas ton jouet. Joue oui, joue l'amour, joue le vélin, pas le jour enfumé.
de consoler vos doutes. Regarde autour de toi, s'il n'y a pas de message à déchiffrer. Laisse tomber tout ça, ne cherche pas ta douleur. Laisse tomber les pleurs, viens avec moi. On va jouer là avec eux, et on va jouer ici même.
Il faut pas jouer, non pas jouer de ton bâton. C'est pas ton jouet. Jouis, joue l'amour, joue le véla. T'as mis le jour en fumée. Il faut pas jouer, non pas jouer de ton bâton. C'est pas ton jouet. Jouis, joue l'amour, joue le véla. T'as mis le jour en fumée.
C'est lui qui chante devant, Karim Amour. On le retrouve, il est musicien, compositeur et directeur artistique d'Urban Voices, donc il est monté sur ressort malgré les béquilles avec lesquelles il jongle temporairement aujourd'hui. Et il nous explique le barnum d'Urban Voices, à commencer par sa géographie.
Ok, moi je vais faire une spéciale dédicace à ceux qui sont pas là. Ceux qui sont pas là, par exemple, Klaus Plaskis n'est pas là. Par exemple, Mario n'est pas là. Carl Davis n'est pas là, Aïcha n'est pas là, Oudi n'est même pas là, les Indiens ne sont pas là, la bonne amie n'est pas là, mais ils sont toujours avec nous parce que Urban Voice, c'est tous ces gens-là,
il faut pas jouer, non pas jouer de ton bâton, c'est pas ton jouet, jouis, joue l'amour, joue le
bébé. Ce qui se passe, c'est que c'est un modèle un peu particulier, parce que c'est comme si on montait une chorale par quartier dans la ville. Il y a 10 quartiers, 10 grands quartiers dans la ville. Et monter une chorale par quartier, pour monter 10 répertoires différents, serait inintéressant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté le même répertoire. Et en fait, sur 15 jours, du lundi au vendredi, on fait 10 répétitions, la même. Donc il y a, en fait, 4 fois 10 répétitions. Et en 4 répétitions, puisqu'on propose aux gens de venir au moins une fois tous les 15 jours, pour le même cursus, mais certaines personnes font 2 fois dans la semaine. 4 fois sur 15 jours, pour être sûr de bien avoir compris le cours numéro 1, le cours numéro 2. Donc, une fois qu'on a fait 4 fois le tour de la ville, ça fait quand même 40 répétitions. Le cinquième cycle, ce qu'on appelle le cinquième cycle de 10 répés, on le fait dans les jardins pour faire la générale, ce qu'on appellera la générale, une répétition publique, pour qu'on puisse être confronté aussi au public et puis être dans des conditions un petit peu presque de concert final. Donc voilà, et nous, notre rôle, on a tous un rôle différent. Le mien est un peu particulier cette année, puisque les années précédentes, j'avais invité des artistes américains, cubains, brésiliens, antillais, moldaves, indiens. Il y a eu plein de thématiques depuis 6 ans. Et je dirigeais le chœur. Et cette année, comme on n'a pas invité d'artistes internationaux depuis 2 ans, j'ai pris en charge la composition et l'écriture. Mais non seulement je l'ai prise en charge, mais en plus, comme c'est une chorale qui apprend chaque année, j'ai ouvert l'écriture à 5 pupitres. Ça veut dire que, faut comprendre ce que ça veut dire pour un musicien chanter à 5 voix. 5 voix. Il y a 2 voix d'orchestre et 3 voix de mélodique, on va dire. Et chanter à 5 voix, quand t'as pas l'habitude, ça chante de partout. Faut reconnaître ton petit bébé là-dedans. Je suis où, etc. Voilà, donc la difficulté cette année, elle était là. Elle était de tout faire, de composer, d'arranger, de diriger mes 3 chefs de chœur. J'ai 3 chefs de chœur quand même qui sont là avec moi, évidemment. Et puis d'arriver à un résultat, surtout que la chanson française... les gens comprennent les paroles, les gens connaissent un peu, donc à la limite les gens sont moins critiques quand tu chantes en moldave ou en hindi qu'en français. Donc moi j'ai une écriture qui ressemble plus à une écriture jazzistique, c'est-à-dire que souvent il y a juste un texte qui est répété plusieurs fois, mais sous plein de formes. Bon, on aura l'occasion d'en parler. Voilà pour ce qui est de mon rôle là-dedans.
C'est bon ça, encore. Wembala, wembala, wemba.
Ah, wemba, wembala, wemba. Wemba, wembala, wemba. Oyoyo.
Nasako, wembala, wemba.
Ah, nasako, wembala, wemba. Nasako, wembala, wemba. Oi, oi, oi.
A canavio menge, isang isae.
Pour résumer un peu la partition, elle est écrite sur un principe de drum and bass, sur basse-batterie. Le bassiste, c'est un excellent musicien, qui est le bassiste d'Hubert Félix Thieffen, entre autres, de Gilles Servat, de Monsieur Stivell. On a quelque chose en commun tous les deux, parce que lui, il est black en Bretagne, et moi, je suis beurre dans le Poitou, vous voyez. Donc, il y a quelque chose de très, très fort entre nous. Lui, c'est le mec d'Astérix, et moi, je suis celui qui s'est arrêté, qui a fait les choses à Poitiers, là, comme ça. Donc, c'est drôle. Bon, on est des frères d'âme, hein, tous les deux. C'est un excellent bassiste. Et j'ai trois jeunes big boxers qui font la batterie.
Freestyle, pour une sculpture.
Ok. Je reviens des balades dans les champs. Ça va, y'a pas le feu, c'est bon, oubliez-moi. Je suis pas en avance, mais je suis là. Balader dans les champs. Balader sans doute est alléchant. J'aime tellement chanter, yeah. Oh, 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 oh.
Nantais, donc depuis 2011, qui participe à Urban Voices. C'est qui ces chanteurs? Alors, j'ai vu qu'ils allaient de 7 à 89 ans. Qui chante?
Qui chante? Alors, là, franchement, même moi, je suis assez épaté et surpris. Parce qu'en fait, ça fonctionne par cooptation. Le mec, a priori, voit une pub, venez chanter dans notre chorale. Bon, déjà, chorale. Moi, je n'appelle pas ça une chorale. Je l'ai appelé le grand collectif vocal urbain, déjà. Et c'est un chœur, parce qu'il y a toujours un soliste. Ce n'est pas une chorale comme on connaît classiquement, où la chorale chante. Il y a un soliste, donc ce sont des chœurs, des pupitres de chœur qui accompagnent un chanteur, un artiste, un soliste. Donc déjà, il y a ça. Et oui, je suis épaté parce que par cooptation, on a un directeur de l'hôpital, donc un maître S, docteur, tu vois, S en chirurgie, je sais pas quoi, qui vient chanter. Et à côté de lui, il y a quelqu'un en chaise roulante, tu vois, paraplégique. Et juste derrière, tu as quelqu'un au RSA, et tout le monde avec le sourire. Et je veux dire, ça, c'est incroyable comme ça met les barrières par terre, parce qu'en fait, tout le monde est face aux mêmes difficultés. Mmh. Et cette difficulté, elle est intéressante, c'est la difficulté de respirer. Et là, c'est intéressant. Là, ça devient génial. Parce qu'en réalité, quand on parle de notion du chant et de justesse, c'est la justesse de ton inspiration et de ton expiration qui est à 90% responsable de la justesse de la note. Donc tout le monde est confronté au même travail. Inspire avec le nez, colonne d'air, on tient bien au niveau du périnée, on tient bien sa colonne d'air, on ouvre suffisamment pour qu'il y ait une création d'harmonique. L'harmonique sur le A, sur le O n'est pas la même, donc on fait un vrai A, pas un O, mais un A. On ouvre bien à l'intérieur, on s'échauffe la mâchoire, les joues, la langue. Et tout ça, d'où que tu sois, qui que tu sois, ça te fait du bien. Et en fait, bizarrement, tout le monde paye 10 euros à l'année. Évidemment que si c'est un prix de 10 euros, c'est parce qu'on a envie que ce soit accessible à tout le monde. Mais si on peut faire payer 10 euros, c'est parce qu'il y a une volonté politique derrière. Je veux dire, à un moment donné... C'est une alliance entre des acteurs que nous sommes et une volonté politique pour un public qui adhère ou pas au projet. Encore faut-il que le projet les intéresse. Là, en l'occurrence, ça a l'air de leur plaire puisque les gens reviennent et voire même quand ils ne viennent pas, invitent leurs enfants ou leurs amis à continuer parce qu'ils l'ont fait 2 ans. C'était une superbe expérience. Ce qui fait aussi, je crois, la diversité, c'est l'approche du répertoire. Parce qu'on n'a jamais tombé dans un répertoire dit classique choral. Quand tu as un chanteur comme Carl W. Davis, un chanteur américain de Floride, alors pourquoi il vient à Nantes ? Tout simplement parce qu'il y a un jumelage entre Jacksonville et Nantes. Et donc, à travers le festival de jazz des Rendez-vous de Lerne, on l'a rencontré. Lord knows I don't want another chance. Not again. Et ce type est juste génialissime. C'est un chanteur de soul, rhythm and blues, tu vois. Et je suis désolé, t'as un mec comme ça dans une chorale, c'est juste super excitant. Pareil pour Mario Jauregui Aspirina, qui a fondé l'ensemble national folklorique de Cuba. Quand ce vieux papy de 85 balais vient ici, te chante la rumba ou chante les chants liturgiques afro-cubains, les gens, c'est déjà rien que la rencontre. C'est quelque chose. Donc je pense que ce qui fait aussi cette diversité, c'est l'aspect de la qualité des intervenants. Je parle pas pour moi, parce que moi je bénéficie d'autre chose avec les gens. J'ai pas une aura d'artiste international, mais ici les gens me connaissent bien parce que j'ai été le chef de chœur et le meneur du projet. Donc ils ont accepté, ils ont joué le jeu de mes compositions. Apparemment, ça leur plaît. Sinon, ils les chanteraient pas. Je suis heureux que ça leur plaise. Mais je n'ai pas le même statut que les artistes qui étaient invités. Et lorsqu'on a invité Aïcha Lebga, Aïcha Lebga, c'est juste une diva, c'est la plus belle voix qu'on ait en Algérie, et elle vit à côté au Loro Botro. Faut le savoir, ça. T'as qu'elle habite à 10 bornes de Nantes, la dame. Et elle, pareil, c'est une voix magnifique. Alors, pareil avec les Indiens, en 2014, je suis désolé, on avait deux des plus grands chanteurs de Kyal et de Drupad, avec des joueurs de violon et de percussion juste faramineux. Voilà, ça donne d'ailleurs le DVD de 2014 sous les nefs, où là, on a quand même réussi à faire chanter 850 personnes d'un coup, sur une scène immense, chanter des ragas indiens, quoi. En 7 ans, tu vois ce que je veux dire ? Des trucs improbables. Absolument improbable. Et tout le monde chantait avec en plus le langage percussif dans la bouche, etc. Donc on vit, je pense, ce qui crée cette diversité, c'est le fait de prendre les gens au sérieux, en leur donnant possibilité d'approcher des soi-disant une musique entre guillemets d'élite. D'accord ? Moi, je suis très 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 critique personnellement, sur ce qu'est la musique de sciencée, ou musique intelligente, ou musique écrite, orale. Moi, je suis assez choqué, même parfois, encore, du système dans lequel on est. Et aussi, quelque part, à travers ce projet-là, il est intéressant de démontrer à quel point l'intelligence humaine, les qualités vocales, peuvent naître très très vite, pour peu qu'on accepte de jouer un autre jeu pédagogique. Et le jeu pédagogique, c'est celui de considérer que les gens sont bien plus capables qu'on ne le croit, qu'ils peuvent aller beaucoup plus vite, que la mémoire fonctionne très très bien, qu'un enfant de 3 ans balbutie des mots avant de savoir écrire. De la même manière, on peut chanter très très juste, avec beaucoup de swing, sans même savoir une note de musique sur une partition. Et que le ressenti de la voix, en plus, en termes de hauteur, permet d'avoir des vrais repères. Moi, les 3 pupitres, ils savent très bien, maintenant ils ont compris, ils savent très bien s'ils ont chopé la voix des sopranes ou c'est bien la leur, parce que physiquement, ça ne résonne pas du tout au même endroit. Donc tous ces aspects-là, cette intelligence, je dirais, du corps, plus que du mental, cette intelligence du corps mis dans la voix permet une espèce d'alliance, une espèce de partenariat qui fait que les gens font des progrès très 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 vite. Et on ne bosse que 2 mois et demi dans l'année, je veux dire, c'est pas un cursus de 5 ans, quoi.
Ce qu'on entend, Karim Amo, dans ce que vous dites, c'est que le mouvement qu'est le vôtre, c'est celui du décloisonnement. Alors, entre les cultures d'élite, entre guillemets, et plein de guillemets, et les autres, entre ceux qui ont appris et ceux qui n'ont pas appris, entre les différentes classes sociales et entre les différents quartiers. Alors, les gens se parlent plus entre différents quartiers ou entre différentes classes sociales une fois qu'ils sont passés par Urban Voices ?
Ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que ce que je disais tout à l'heure, face à la difficulté, nous sommes tous égaux. Alors, je ne vais pas faire de parallèle avec des situations qu'on a pu connaître historiques où les gens se sont retrouvés enfermés avec des gens de classes différentes, avec une vraie difficulté. Ils se sont rapprochés. Donc, il y a des exemples dans des films, dans des bouquins, dans des tas. On a des tas d'exemples de ça, où les gens oublient leur statut social, leur richesse, leur culture, etc. parce qu'il y a quelque chose de l'urgence. Hein, et c'est de l'ordre de... Ça ramène aux peurs aussi un petit peu, hein, au cerveau reptilien, etc. Là, il s'agit de quelque chose d'un peu similaire, mais un peu différent. Ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la notion du challenge...
C'est un peu plus pour un challenge. Un challenge de chanter devant un public et puis pour le plaisir de chanter.
La notion de la difficulté, l'envie de réussir, le dépassement de soi, c'est quelque chose qui traverse toutes les couches sociales, tous les quartiers, toutes les cultures, toutes les traditions.
Chaque soir, la répétition se fait dans un quartier différent, ce qui permet aussi aux gens peut-être de sortir de chez eux. Enfin, c'est aussi ça l'attention.
On a des femmes voilées, hein, musulmanes, hyper cool. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème. On a des gens barbus, on a des gens rasés. Enfin, je veux dire, il y a des gens petits, des gens grands. Il y a de très belles femmes et il y a des hommes très moches et vice-versa. Bref, non, mais ce que je veux dire, c'est que autant dans les esthétiques, etc., les gens, je crois, ont compris qu'il y a une matière un petit peu aussi spirituelle.
On est bienveillants les uns avec les autres.
Et quelque part, on crée de la reliance.
Je ne loupe pas une répétition quand je suis disponible. Moi, c'est la troisième année et je... Voilà, toujours autant de bonheur.
Alors, on a la chance de ne pas être numéroté.
On doit quand même faire la distinction entre la chorale ou... sommes un chœur qui accompagne un chanteur principal.
Je fais partie d'un des trois registres principaux.
C'est l'année où je fais les choses que je ne faisais pas.
J'adore l'ambiance, voilà. Surtout Karim Amour.
Je m'immisce dans la foule.
Il est un peu perché, il a toujours des idées, enfin il va au bout de ses idées, il a plein d'énergie.
Pour moi c'est la deuxième année, mais il y en a qui sont là depuis bien plus longtemps.
Il y a plus de jeunes que les années précédentes, Karim était content de ça.
Moi je récupère l'énergie des autres, quoi.
Karim c'est tout un personnage.
Plus de garçons aussi je crois cette année.
On s'est retrouvés le grand final l'une à côté de l'autre, on a parlé, et depuis on prend des petits cafés ensemble, voilà.
Vous pourriez chanter le jardin là?
Bon, on peut essayer, hein. Je sais pas.
Vous. Dans ce jardin, dans les fraises, c'est un festin d'être là, tu sais. Oh, le cul posé sur l'herbe, ok, inspire, ok.
Ça semble fou.
Supersonic, il peut être supersonic. France.
J'ai eu la chance de rencontrer des gens dans mon existence. À Créteil, j'ai rencontré Jean Negroni, qui était mon voisin. Lorsque j'ai voyagé, j'ai rencontré Daniel Prieto, qui est un des grands maîtres du Royal Théâtre au niveau de la voix. C'est des rencontres fortes, hein. Mario à Cuba, j'ai appris le tambour afro-cubain avec lui. Et la percussion pour un chanteur, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu la chance de voir Klaus Blaski, c'était mon premier concert à 13 ans à la Maison des Arts de Créteil. Et je le retrouve 20 ans après dans un groupe de samba, c'était juste, voilà, et depuis on est alliés. J'ai cette chance d'avoir des artistes de talent autour de moi et qui m'ont permis de prendre du recul par rapport à ce qu'est la difficulté d'aborder l'art. Moi, je suis pour la démocratisation de la culture, j'y crois encore, alors même que peu de gens y croient encore, et plutôt qu'en parler. Aujourd'hui, on en parle, mais c'est une des premières fois que j'en parle, je veux dire, dans une radio culturelle nationale. Je préfère être dans l'action. Et c'est l'action de 20 ans aussi qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire ça fonctionne. Et je n'ai même pas besoin de le prouver. Poser la question aux chanteurs. Poser la question, est-ce que vous savez même ce que vous chantez? Ils ne s'en rendent même pas compte. Je leur fais faire des harmonies à 5 voix, ce que je vous disais tout à l'heure, où il y a, y a la tierce, la 7e, la 9e, la 11e. Tu leur parles de ça, ils prennent peur, ils se sauvent en courant. Comment leur expliquer? On leur explique pas, ils entendent. Et l'intelligence du cœur, l'intelligence de l'âme prime avant tout. Donc voilà pour ce qui est de cette notion de qui est habilité à, qui est autorisé à. Est-ce qu'il y a une musique pour des sachants, pour des savants, et une musique pour les non-sachants? Voilà, moi j'ai entendu des orchestres de jazz parfois avec des mecs qui avaient fait Berkeley, etc. Bah mince, ça swingait pas un caramel. Ça m'est arrivé, je suis désolé, je sais pas toi Thomas, mais moi ça m'est arrivé. Et j'étais déçu parce que je trouvais que ça tournait pas. Et parfois dans la chorale, je suis ému.
Il y a un nom que vous venez de dire, Jean Negroni, qui s'occupait de la Maison des Arts de Créteil, c'est ça? Qui parle de voix, qui était une voix, un grand comédien. C'était quoi cette rencontre-là?
En fait, j'habitais au 7 rue Claude Perrault, à Créteil, et Jean et David Negroni, son fils, étaient dans ma classe, et Jean Negroni était juste mon voisin, en fait. Et quand j'étais gamin, j'avais, alors je vous dis pas de bêtises, j'avais 10-11 ans, et avec sa femme et avec les enfants, ils créaient la Maison des Arts de Créteil. Donc j'arrivais chez eux, et c'était l'administration à la maison. Et il y avait tout sur les bureaux, des tas de papiers, des machins. Et puis, et j'ai vu un personnage, un bonhomme génialissime, justement. Moi, j'ai vécu des trucs gamin avec lui, super. Par exemple, on a eu la visite de Robert Hossein en atelier pour les gamins de CM2. Non, mais tu le crois, toi, à l'époque, à la Maison des Arts de Créteil. Et on y est allé avec notre maître d'école. Et là, t'avais Jean qui était là. Et puis, t'avais Robert Hossein. Et puis, il nous a fait une lecture. Et on a eu des échanges et tout. Je pense être même sûr que il y a une relation entre ce moment-là et ce que j'ai pu faire après en tant qu'artiste dans les quartiers nantais direct. C'est-à-dire que pour qu'un mec comme Robert Hossein et Jean Negroni fassent ce genre de choses, c'est-à-dire là on est dans la culture populaire hein, pour le coup, peut-être ça m'a aidé, ça m'a poussé à ne pas écouter ce que me disaient pas mal de gens à l'époque. Quoi. Attends, Karim, t'es fou, t'es musicien, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire du patronage dans les quartiers populaires? Je dis mais non, mais je sais pas, j'ai peut-être des choses à transmettre, des choses à donner, parce que peut-être ça peut créer des vocations. Cette histoire avec Jean Negroni, David, c'était quelque chose de très fort à l'époque. Après, je suis parti de Créteil. Pour plein de raisons, je me suis retrouvé à Sainte-Flève-des-Loups. Là, par contre, tu connais pas Sainte-Flève-des-Loups. Hein. C'est entre les Sables-d'Olonne et la Motachar, tu connais pas non plus, ou les Sables-d'Olonne peut-être, près de la Roche-sur-Yon en Vendée. C'est-à-dire qu'on a pris un jeune beurre de Créteil, tu vois, et on l'a mis dans le verre. Bon, pour moi, ça m'a sauvé. Parce que mes potes à Créteil, à l'époque, c'était pas génial, génial, génial. Et là, j'ai commencé à faire de la musique vraiment, officiellement au conservatoire et tout, à ce moment-là, j'avais 17 ballets. Mais donc voilà, et là j'ai coupé court avec tous ces gens-là de cette époque. Mais ce que je veux dire, c'est que des vocations, moi j'ai l'impression que ma vocation vient de ça, de cette histoire avec Jean Negroni, entre autres, et avec d'autres gens à Créteil, parce que j'étais beaucoup dans la rue, j'étais beaucoup dans le... Ma mère était toute seule à la maison, donc nous on était tout le temps dehors, au Montmélie, là, à Créteil. Par contre, je sais que depuis une vingtaine d'années sur Nantes, on en a créé des vocations. Un paquet. On a eu près de 500 jeunes qui sont passés ici en atelier. 500 gamins entre 13 et 17 ans des quartiers populaires. Certains sont intermittents aujourd'hui, professionnels de la musique. Une dizaine d'entre eux ont monté des assos, qui sont aujourd'hui des assos qui ont pignon sur rue dans les quartiers populaires. Certains sont embauchés chez nous et continuent à perpétuer le truc. D'autres ont fait d'autres boulots, mais ont un souvenir de cette époque. Bon, imagine, le gamin de 12 ans, en 2002, t'as un gamin de 12 ans qui chante sur scène avec 9 des plus grands rumberos de la Havane, quoi. Enfin, genre de délire, quoi. Et ça, on a pu le faire à Nantes. Rumberos, les plus grands. Je vous parle de ça, donc il y a 2002, c'est il y a 15 ans, tu vois. Et bon, on avait fait d'autres expériences même avant, mais cette expérience-là qu'on avait appelée Rumbop, donc Rumba Hip-Hop, tu vois, ça a laissé pas mal de traces aussi et ça permet, pour moi, hein, ça permet de sortir encore une fois des tribus, hein, musicales, quartiers, etc., etc. Donc, je crois que l'art a cette vocation extraordinaire et le chant peut-être encore plus. À cause de cette idée de proximité de l'instrument, hein, avec chacun, l'art a cette vocation, il me semble, à casser pas mal de barrières, autant sociales, culturelles, traditionnelles, en tout cas à permettre, au-delà du statut a priori des gens, de permettre une rencontre, comme sur un plan supérieur.
On ne s'entend pas trop en retour. Oui, la joie. Il est très bien. Il est très bien. Presque fort, mais il est très bien. Est-ce que Gilles est par là, Gilles Guyon? Est-ce que Gilles Guyon se trouve parmi nous?
Alors vous faites quoi là, vous? Faites des croquis de...
Des croquis des musiciens, des chanteurs sur scène pour les tambours à Nantes, pour Urban Voice.
Voilà. C'est une autre manière de rendre compte du concert, de l'ambiance,
c'est
de tout.
C'est ça, de dessiner en fait le son et l'émotion du moment. Ça peut être chanteur mignon, un gars qui chante seul sur scène, représenter une ambiance un peu blues, représenter le son et la musique d'une autre manière. C'est-à-dire pas forcément avec ses oreilles, mais de manière visuelle, et qu'on ressente la musique et l'ambiance par le dessin et par le graphisme que l'on va donner.
Et c'est votre propre émotion qui dicte ce que vous voulez dessiner dans ces moments-là ?
Tout à fait.
Donc c'est de vous dessiner avec vos oreilles en quelque sorte ?
Les yeux passent, je dirais, avant le son, et après on essaye de faire un mix des deux pour rendre compte vraiment de l'ambiance générale.
Et alors vous, quand vous revoyez vos dessins après, vous réentendez ce qui a été chanté ?
Pas forcément. Des fois, on voit d'autres choses, on se rend compte de petits détails. En tant que dessinateur, je dirais qu'on voit plus les défauts, en fait.
Ah oui ?
Au retour, quand on revoit les dessins dans le temps, on a plus tendance à voir ce qu'on a mal fait que ce qu'on a bien fait aux yeux à nos propres yeux, en fait.
Ça donne pas envie de chanter ?
J'aimerais, mais je pense pas avoir une assez bonne voix pour, pour chanter. Du coup, j'exprime autrement. C'est pour ça que je me suis tournée vers le dessin aussi, je pense à la base. J'exprime les émotions d'une autre manière et d'une autre façon.
À la Catanifoba par Urban Voices, le grand collectif vocal urbain nantais.
À la Catanifoba, Orissa les Wao, à la Catanifoba. Orisale wawo, ala katani fea. Orisale wawo, ala katani foba. Orisale wawo, ala katani foba. Orisale wawo, ala katani foba. Orisale wawo. Les wawo, les wawo, les wawo, les wawo. alla katani fumba, orisa le wawo, alla katani fumba, orisa le wawo, alla katani fumba, orisa le wawo.
Chef de pupitre,
chef de chœur.
Mmh. Chef de chœur, l'un des trois chœurs.
Oui,
enfin,
les voix graves.
Vous êtes une danseuse en fait.
Ah non.
Bah si, quand vous dirigez le chœur, vous dansez.
Ah oui, avec les bras. Ah oui, oui, c'est très aérien.
Avec tout.
C'est très aérien. Mais il faut se donner de son corps, je pense. Mmh. On ne peut pas rester statique en faisant ça. C'est pas possible. Pas sur ces musiques-là en plus. Il faut accompagner, il faut porter le chœur en fait.
Et c'est des codes que vous avez inventés ou qui sont partagés ou je sais pas. Mais des fois, on comprend tout par le geste, par le mouvement de la main.
Et mais... c'est que je fais bien mon métier, alors. C'est bien, je peux continuer, alors.
Bah, très bien, bon.
Non, après, on a des petits secrets entre les choristes et moi, pour des A, des O. On refait au début, on refait. Heureusement que ça marche. Bon, du coup, c'est comment je pourrais dire ça? Je pourrais diriger en Finlande, en Grèce, au Japon, ce serait les mêmes codes en fait. La musique c'est juste un peu universel, donc on comprend tout.
Donc les gestes sont aussi de la musique voilà. En quelque sorte.
Ah oui, ah oui, oui. Et on s'entraîne chez nous.
Comment?
On s'entraîne. Ah ben on s'entraîne devant on écoute et puis en même temps, on fait dans le vide en fait. Et là les gens nous prennent pour des grands tarés. C'est intéressant.
Vous vous entraînez sur les enregistrements?
Ouais. Ah oui, oui. Au niveau des structures surtout en fait. Savoir à quel moment on refait le pont, le A, le B, à quel. Voilà. Ça, il faut qu'on le sache parce que les choristes ne le savent pas forcément. Et nous, on est là pour les rassurer en leur disant « Ah, c'est bien, ça marche, c'est ça, on refait encore le haut. » Donc ça les rassure et après, ils gèrent vachement bien. Mais ils ont besoin de moi, j'ai besoin d'eux. Enfin, c'est vraiment un rapport, comment je pourrais dire ça, très fusionnel en fait. Ils attendent de moi, j'attends beaucoup d'eux, ils le savent en plus. Et du coup, le résultat, il est là, on ne voit pas, mais il est jusqu'aux
c'est
oreilles.
Smile, ouais. Mais il y a des moments où je me suis même demandé si c'était pas une manière de mimer aussi les paroles. Il y a des choses qui sont liées aux paroles,
alors,
au sens des mots.
Ouais, moi des fois je fais ça pour rigoler un peu en fait, sur la mer. Hein, bon là on peut pas voir, mais voilà, je fais ça histoire de, oups là, on détend un peu l'atmosphère et puis et tout va bien. Et oui, c'est les bonnes paroles que vous chantez. C'est bien ça, vous vous trompez pas. Mais oui, après en fait le chef de chœur il est surtout là pour donner le tempo, pour donner les bons départs, si c'est en anacrouse ou pas. Enfin, et puis après le reste on fait bien comme on veut. Hein. Voilà.
Et vous, vous arrivez à distinguer clairement votre groupe de choristes, oui, des quatre autres.
Les quatre autres. Alors, il y en a deux qui sont autonomes en fait, ouais, qui s'autogèrent devant. Nous, on est trois derrière. Nous, on est au centre, donc en fait, c'est assez facile. Après, c'est plus difficile pour eux de choper la bonne voix, parce qu'on est les voix graves et les voix graves passent moins en fait que les voix aiguës. Donc, ils auraient tendance à se perdre dans les autres. Et après tout, je leur dis, c'est pas très grave, parce qu'en fait, on sera toujours dans l'harmonie, ce sera les bonnes notes, ce sera pas ça, mais ce sera les bonnes notes, donc ça chantera juste. Une fois qu'ils ont la première note, après, Walou, ça passe. Hein.
Et comment ça s'est passé ce soir?
Super bien, ouais. Mais vachement bien.
Mais que vous dirigiez-vous, comme là, ce soir, une soixantaine de personnes dans votre propre groupe, ou je sais pas combien il y en a quand vous êtes 500, c'est la même chose?
Ouais. Oui. Il faut juste faire des gestes plus grands. Ça fait juste plus mal au bras. Mais ah oui, c'est la même énergie. C'est même encore plus d'énergie, évidemment, qu'il y a plus de monde, parce qu'il faut les porter. Et... Mais ouais, c'est le même boulot. Et qui serait tout seul, il faudrait... Allez, vas-y, c'est bien. En fait, c'est ça.
Ça vous est arrivé d'être déstabilisé par la puissance
oui,
du groupe?
Oui. Oh, c'est impressionnant. Et en fait, tu te prends ça, vous, pardon, en pleine face. Et tu sais, ça te... Presque, en fait, ça te fait reculer parce que c'est vraiment fort, en fait, des émotions, des énergies, c'est incroyable. Alors là, on n'a pas encore commencé vraiment la tournée, mais l'année dernière, à l'île Versailles, et les deux autres chefs de chœur aussi, c'est pareil, on a vraiment ressenti ça, cette espèce d'énergie qui nous transperce de « waouh !» Et tellement c'est fort que on peut avoir les yeux qui piquent un petit peu, en fait, avec la poussière, la pollution, n'est-ce pas? Et ouais, c'est vraiment très, très... beau. Moi, je dis les 3 B. On est là pour se faire du bien. C'est beau. Et c'est bon.
C'est bien parti pour, en tout cas.
Mais c'est super bien parti. Mais c'est une évidence. Ouais, ouais. Ça va vraiment être chouette. Et puis, le fait, là, de se préparer aussi, d'être en tenue, quand même, concert. Hein. Attention, on ne parle pas entre les chants. On se tient bien. C'est fatigant pour les choristes, ça aussi. Ils n'ont pas forcément cette habitude-là. Et c'est des gens qui ont... pas forcément été sur un plateau auparavant, donc c'est quand même un travail en amont assez important à faire. Et on sent que la pression est mentale.
C'est un événement.
Mais c'est un super événement. Super événement.
La spatialisation, le son en 3 dimensions, l'immersion sonore du public dans la voix de ce grand chœur, ça c'est une innovation dans l'avancée du projet depuis 2011, depuis de Urban Voices, c'est ça, c'est quoi l'histoire?
Bah, l'histoire, c'est un truc incroyable parce que, bon, voilà, Klaus qui est un grand frère, enfin, tu vois bien. Klaus Blaskis, pardon.
Ex-chanteur de Magma,
ingénieur, journaliste. Bon, c'est enseignant. Non, c'est juste, pour moi, c'est un mec qui mériterait, tu vois, une légion, par exemple, tu vois, pour ce qu'il fait, ce qu'il continue de faire. Mais bon, en tout cas, c'est un ami et c'est un homme de grand, grand talent. Et je lui dis, cette année, c'est bon, on a la Cité des Congrès. Klaus, je veux que tu viennes nous rejoindre et que tu m'aides pour qu'on fasse quelque chose de bien au niveau du son. Et là, il m'a dit direct, écoute, faut qu'on aille rencontrer un copain qui s'appelle Frédéric Rousseau, qui est développeur à l'IRCAM. Et à mon avis, ça vaudrait le coup d'aller le voir et discuter avec lui. Et on est allé le voir et il nous a parlé de ce qu'ils ont créé à l'IRCAM et qui est développé par Christian L dans la boîte L Acoustique. L Acoustique, il faut le savoir, nous, on connaît bien L Acoustique. Tout le monde connaît L Acoustique. C'est eux qui équipent les plus gros festivals aujourd'hui en Europe et peut-être dans le monde. C'est eux qui équipent nos copains de des Vieilles Charrues, nos autres potes de Hellfest, nos autres potes de là. Bref, tous les gros festivals, c'est eux qui mettent leur système de grappe de son en l'air, qu'on reconnaît maintenant. Et alors là, j'étais un peu, moi j'étais super fier, je dis comment, explique-moi donc. Bah voilà, on a créé la spatialisation, qui est en fait, c'est comme l'immersion binaurale, sauf que c'est en live, c'est pas du tout au casque, et ça permet d'apporter une profondeur de son. Donc on a toute une rangée d'enceintes et qui nous permettent de reculer ou d'avancer les micros et donc de les mettre en largeur ou en épaisseur. C'est-à-dire c'est vraiment de la 3D quoi pour le coup. Et du coup, là où se trouve le musicien, tu l'entends. Où que tu sois dans la salle. Je dis waouh, mais du coup c'est incroyable. Ouais. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est qu'en fait, quand tu es là, ça te fait rien. C'est tout simplement naturel. Je dis waouh, super et tout. Donc on continue à discuter et du coup on rencontre Guillaume Lenost et Sherif El Barbari, qui sont les deux grands spécialistes du développement chez Elle Acoustique de ce projet-là. Et on mange au restaurant et on parle et ils nous font écouter. Bah ouais, parce qu'il faut du. C'est ce temps qui est aussi important. On discute, on échange. J'essaie de comprendre le truc. Je leur dis bah nous, on est à la Cité des Congrès de Nantes. Pas de problème, c'est nous qui l'avons équipé. Tout va bien jusque-là. On peut te sortir les. Ils me sortent carrément sur leur ordi les cotes de la Cité des Congrès de Nantes avec toute l'installation. Ils ont le matos. D'ailleurs, on peut te le. Tiens, puis on va te montrer une simulation. Et ils me font une simulation derrière de ce que donne la stéréo. Avec, tu sais, c'est rouge, orange, jaune. Rouge, c'est on entend super bien. Orange, moins. Jaune, encore moins. Ils me font une simulation stéréo et une simulation 3D, enfin, spatialisation. Et là, je dis ah ouais, d'accord. J'ai écouté, qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de moyens, nanana. Puis bon, bah, j'ai rencontré le chef, Christian L, ce jour-là aussi. Et puis, bah, ils ont juste été adorables parce qu'ils nous ont dit, écoute, pour l'instant, on l'a pas fait. On l'a fait vite fait à la Villette, en mode un peu secret, quoi, tu vois. Mais allez, on vous suit, on vous prête l'équipement, on vous prête les techniciens, etc. Donc, on a juste Sherif, un des patrons qui vient là. Le 4 juillet déboule, hein, 5 juillet à Nantes. Un de ses techniciens avec lui, le processeur, tout ça en partenariat, quoi. Et dans une des plus belles salles d'Europe, parce que la Cité des Congrès de Nantes, c'est une des plus belles acoustiques d'Europe.
Ça, ce sera les 9 et 10 juillet prochains à la Cité des Congrès à Nantes. Mais en attendant, vous en êtes où? Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il reste à faire, Karim Amour?
Alors, on est au moment des répétitions publiques. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est ce que j'appelle, moi, les raccords. C'est-à-dire qu'en fait, jusque-là, j'ai fait répéter les chanteurs sur leur partie, sans les introductions, sans les fins. Ça veut dire que maintenant, on répète avec le bassiste, les beatboxers, le DJ et moi. Et nous, on commence à faire nos petites introductions. La première chanson, ça commence juste avec un petit riff de guitare. Et puis, à un moment donné, tous les chanteurs rentrent. Et là, la guitare se pose. Il n'y a plus de guitare, il n'y a plus que des voix, etc. Donc, on va filer le spectacle pour le préparer, pour être prêt à la Cité des Congrès, à le jouer 6 fois. Et voilà, très concrètement, c'est comme n'importe quel orchestre qui se fait une générale avant de se retrouver dans la salle de spectacle. C'est aussi simple que ça, c'est une générale.
Rendez-vous sans armes. Rendez-vous sans blâme. Amalgame. Rendez-vous. La terre nous réclame. Quel beau symbole. Debout face à face. À l'aise dans nos rôles. Bien dans nos godasses. On salue l'auditoire. Nos frères de sang chaud. Notre mère est la Gaïa, elle connaît nos défauts, plein de joie, ivre d'idéaux, nous misons nos espoirs.
Urban Voices, à l'heure où nous mettons sous presse à terminer ces répétitions publiques, et maintenant commence l'attente. L'attente avant donc ces représentations à la Cité des Congrès, à Nantes. Ces 1000 choristes et leur énergie en sont 3D, en sont spatialisés. Ce sera donc samedi et dimanche prochain. Et l'entrée est gratuite, mais il vaut mieux réserver sur le site tambouranantes.fr, tambouranantes tout attaché, tambour avec un S. Le récital a un titre, La ville est belle.
Rendez-vous, tous les
Thomas Baumgartner est supersonique.
Notre nouveau jingle.
France Culture Supersonique.
Sur France Culture.
Supersonique France Culture. Ah, merci beaucoup. Merci.
On change d'univers, mais pas d'esprit. Post-scriptum à la dernière émission de Supersonic de la saison. Il y a des noms que vous entendez régulièrement, voire systématiquement si vous écoutez Supersonic. Par exemple, Véronique Lamandour, qui réalise Supersonic après avoir réalisé toutes les saisons de l'Atelier du Son, sur France Culture déjà, depuis septembre 2011. On l'embrasse et on lui conseille de cesser de chercher les dernières plaques de verglas de la saison. Et il y a aussi Inès De Bruyne, toutes les saisons aussi de l'Atelier du Son, puis Supersonic, Inès, qui prépare et coordonne l'émission dans ce rôle qu'on intitule, dans le jargon parfois un peu bureaucratique de la radio publique, attaché d'émission. Attaché à Inès, comment pourrait-on ne pas l'être? Tant il est vrai que dans notre petite équipe, on tend de plus en plus à communiquer par télépathie. On songe d'ailleurs à se présenter comme cobaye à la science. Or, Inès De Bruyne est aussi compositrice, figurez-vous, électroacoustique, s'il vous plaît, dans le sillon de quelques figures qu'on a pu évoquer dans cette émission, voire sous leur enseignement, comme Bernard Faure, qui était interviewé ici même le 11 juin. Il fallait bien qu'un jour ça s'entende dans Supersonic qu'Inès, vous êtes tuée. Compositrice, bonsoir.
Bonsoir.
On va pas faire semblant, on va pas faire semblant de se vouvoyer, malgré les conventions de la radio. Et on va terminer cette saison par un extrait d'une pièce toute récente que tu signes, que tu as rendu public le 30 juin, donc il y a quelques jours, et qui a été composée dans quelles circonstances?
Alors en fait, au tout départ, c'est venu d'un appel à projet qu'on a lancé pour Création en Air avec Irène Omelianenko.
Dont tu t'occupes aussi.
Dont je m'occupe aussi. Un appel à projet qui était en fait destiné aux écoles d'art et aux jeunes étudiants des écoles d'art et qui est parti autour du thème du flux. Et moi, en fait, quand je pensais au flux, je pensais vraiment au flux de migrants. Mmh. Et ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas eu un seul projet autour des flux de migrants. Donc voilà, un matin, je me suis réveillée en me disant, mais en fait, je vais le faire moi, cette histoire de flux de migrants, je vais essayer de faire quelque chose, moi, autour de ce thème. Donc voilà, c'est parti comme ça.
Et alors, comment on va chercher une matière sonore quand on a un sujet comme ça, qui est un sujet, comme on dit, un sujet d'article, par exemple, il faut le transformer en pièce sonore. Quelle matière, alors?
Bah, alors là, je suis partie vraiment avec l'idée d'aller chercher sur Internet, en fait, tous les sons qu'on peut entendre autour de ces questions de flux. Je me suis intéressée surtout à l'année 2015, parce que c'était une année vraiment très riche dans l'actualité, en fait, sur les flux de migrants. Donc, je suis partie vraiment avec l'idée de regarder tout ce qu'il pouvait y avoir sur le net autour de ces questions-là, toutes les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, etc., pour me mettre un peu à la place des gens qui se font une opinion sur ces questions de migration, sans être sur place directement, sans être ni en Grèce, ni directement à Calais, ni voilà, et qui se font une opinion en fait au travers de ce prisme d'Internet. Donc j'ai vraiment utilisé ces matériaux-là que je traite, que je découpe, que je
voilà. Triture,
mais qui restent quand même assez reconnaissables en fait, mmh. Voilà.
Et intelligible. Enfin voilà, il y a la question du son, la question du mot, la question du sens mélangée. Avec, mécaniquement d'ailleurs, dans la représentation de. Quand il y a la projection de cette œuvre-là, ça se passe comment?
Alors en fait, le dispositif, c'est quatre. Donc c'est en quadriphonie, en fait, avec. Pour moi, chaque haut-parleur représente un poste frontière, donc avec à chaque fois une bande-son différente par haut-parleur. Et avec aussi une boucle sur un Revox. Qui représente là plutôt le côté flux des migrants, justement. Mmh. C'est vraiment le son des migrants en train de marcher, en train d'avancer.
Le Revox, c'est le magnétophone à bande.
C'est
voilà.
Le magnétophone, ouais. À bande, exactement, ouais. Que moi j'ai découvert, puisque j'avais jamais joué avec de l'analogique avant, mais grâce à Bernard Faure, ouais. Voilà, j'ai appris à utiliser ça un peu. Donc voilà, je me suis amusée à faire une boucle sur ce Revox. Voilà, pour le côté aussi, la matière sonore qui donne quelque chose peut-être d'un peu plus chaleureux, un peu plus humain, un peu plus vivant, pour figurer ces flux de migrants.
Et il y a un titre?
Ça s'appelle Migrant Data.
Migrant Data, une réduction en stéréo, puisque donc initialement c'est
voilà,
une pièce dans l'espace, quadriphonie, réduction stéréo, fabriquée pour Supersonic, on entend un extrait donc de Migrant Data, par Inès De Bruyne, compositrice, invitée de la dernière partie, de la dernière Supersonic de la saison. Merci d'être passé par là.
Merci Thomas.
Et d'y rester.
7 375 54 288. Population mondiale. Migrants, 250 millions de personnes environ, 3,4% de la population mondiale. Schengen, 46 673 km de frontières maritimes, 7 721 km de frontières terrestres. Frontière entre la Hongrie et la Serbie, un mur de 4 mètres de haut, renforcé de barbelés sur 175 km, mur de barbelés de 3 mètres de haut et de 30 km de long entre la Turquie et la Bulgarie, doit être prolongé de 130 km. Kilomètres de barbelés, grillages, tôle ondulée récupérée des pistes d'atterrissage de la guerre du Golfe. Équipés de radars, capteurs, projecteurs, 21 000 gardes frontières. Coût, 6 milliards de dollars. Espagnol au Maroc de 12,3 km². Ceuta, enclave arrière de 6 mètres de haut, 19 triples grillages, 48 caméras, 25 millions d'euros, 47 millions d'euros.
Et voilà, c'est la fin du Supersonique sur France Culture. Pour aller plus loin, les compléments, les commentaires et les podcasts, rendez-vous sur franceculture.fr. L'émission a été préparée et coordonnée par Inès De Bruyne, et oui, celle-là aussi, et réalisée par Cyrielle Weber, qui n'a pas vu la mer. Le son en reportage était signé Loïc Duros, et le mixage ce soir, Jean-Michel Bernaud. À noter, cet été, vous retrouvez tous nos hors-séries en son 3D machin machine, le dimanche, à 21h. Et dans un instant, vous retrouvez les Nuits de France Culture. Nous, on se retrouve à la rentrée. D'ici là, portez-vous bien. Et bel été !